Bonjour dans l'hebdo des lycéens. L'hebdo des lycéens, c'est ce rendez-vous du vendredi qui vous permet de retrouver les lycéens de la cité scolaire Paul Scarron de Ciel-Guillaume avec leur regard sur l'actualité de la semaine avec nous dans ce studio. Justine, Lise, Antoine, Stéphanie, Laurine, Audrey et Pierre. Et aujourd'hui, vous allez le voir, l'actualité qui a été choisie va peut-être vous surprendre par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans la plupart des journaux et des séquences d'informations actuellement sur les radios nationales et également à la télévision. Et on va tout de suite voir si on va pas se faire un petit peu décoiffer dans les heures ou les jours qui viennent. Lise, il paraît qu'on va frôler quelque chose de tout près.
Alors c'est pas vraiment moi qui allons frôler quelque chose, c'est un astéroïde qui va frôler la planète mardi prochain. Il se nomme 2005 IYU55.
Oh, c'est un joli nom poétique, oui.
Tout à fait.
Et moi, j'aime mieux DRD2.
Et de la taille d'un porte-avions, c'est-à-dire d'une largeur de 400 mètres. C'est le plus gros astéroïde passant auprès de la Terre depuis 1976. Et il n'y en aura pas un aussi gros avant 2028. Donc il va passer à 23h28 ce mardi 8 novembre à 325 000 km de la planète. Donc c'est un peu moins que la distance Terre-Lune. Donc il n'y a vraiment aucun danger de collision. Donc la NASA a déclaré hier à Washington qu'il n'y avait pas de conséquences sur les marées et sur les plaques tectoniques, contrairement à la Lune. Et les astronomes analyseront le plus précisément possible des échos d'ondes radar rebondissant à la surface de l'astéroïde. Une surface qui, d'après des aperçus normalement de 2010, serait encore plus noire que le charbon.
C'est intéressant tout ça, a priori on se dit l'astéroïde, mais on s'en fout un peu de l'astéroïde, il va passer loin, tout ça, ça ne nous concerne pas. Et on apprend finalement qu'il y a plein d'analyses scientifiques qui vont être faites sur un événement. Pourquoi tu nous parles de cet astéroïde? Parce que finalement, c'est vrai que ça ne semblait pas... À partir du moment où on n'est pas directement menacé, on pourrait regarder ça de très loin, oui.
Oui, voilà.
Alors pourquoi?
Je trouvais ça intéressant parce que tout ce qui vient de l'espace... on le connaît pas encore énormément, forcément, et ça me fascine un petit peu, en fait. Voilà.
Si un jour tu avais la possibilité éventuellement de travailler dans ce domaine, soit dans l'observation scientifique, soit éventuellement tout simplement de partir en voyage touristique dans l'espace, puisque c'est en train de se mettre au point, cette petite chose-là, ça te dirait ça?
Je pense, oui. Bah, comme beaucoup, à mon avis. De partir en voyage touristique.
Comme beaucoup, non, je suis pas si sûr que ça.
Partir dans l'espace, c'est quand même...
C'est vrai que les paysages en cours de route, quand même, on voit pas grand-chose, quoi, faut dire.
Oui, c'est sûr.
Puis en plus, en cours de route, on sait pas en plus où on va, quoi.
Voilà. Mais,
tu aimes la science-fiction? Tu aimes les séries, La Guerre des Étoiles, Star Trek, tout ça, non?
Tout à fait.
Oui, c'est ça, c'est ton monde?
Je savais pas que j'avais une passion là-dessus, mais ça m'intéresse un peu.
Bon, d'accord. Alors, il n'y a pas que Lise qui est intéressée par les astéroïdes. Antoine, qui avait un petit coup de barre, nous a dit « je vais vous parler de Mars ».
Oui, alors la simulation de vol sur la planète rouge, l'opération Mars 500, se termine aujourd'hui. Les 6 hommes, dont un Français originaire de Mayenne, un Chinois, un Italien et 3 Russes, sont depuis juin 2010 dans un module de 180 mètres carrés, entièrement clos, dans un hangar à Moscou. Ils ont passé 520 jours dans ce module. La simulation sur Mars a pour objectif de savoir si l'homme est capable de survivre dans un espace confiné pendant 500 jours, car leur chambre ne dépasse pas 3 mètres carrés avant le vrai voyage, sachant qu'il n'est pas prévu avant 20 à 30 ans.
Donc pas avec ces gens-là, en tout cas.
Non, pas avec eux.
C'est sûr. Il y a un Mayennais dedans.
Oui.
Est-ce que c'est ça qui fait que tu as choisi l'info?
Oui, ça...
Est-ce que c'est la proximité de la Mayenne ou justement ça... l'éloignement de Mars et du temps et de la recherche?
Ça m'a intéressé davantage qu'à savoir qu'il y avait un Mayennais dedans.
La conquête spatiale, c'est un sujet encore qui passionne les jeunes de votre âge?
Encore un peu, oui, je trouve.
Un peu, beaucoup, passionnément?
Non, juste un peu.
Ouais, on n'est plus dans les mythes hein, comme on était dans les années 50-60. Tu es aussi, toi, le lecteur de science-fiction ou tu aimes aussi le cinéma de SF, non?
J'aime un peu la science-fiction, mais c'est pas mon point fort.
Si toi, tu avais l'occasion de faire éventuellement une expérience de ce genre, aller t'enfermer dans une chambre de 3 mètres carrés pendant... en gros, c'est ça. Ouais. Est-ce que franchement... Ça t'enthousiasmerait?
Pas du tout.
donc c'est pour les autres. Est-ce que tu crois que c'est utile?
Oui, parce qu'ils ont fait pas mal d'expériences quand même et c'est utile. Oui.
Et franchement, est-ce que tu crois qu'un jour ça va être utile d'aller sur Mars?
Peut-être, mais on sait jamais, oui.
Et est-ce que ça vaut le coup, a priori, de dépenser de l'argent pour ça? On va y revenir à l'argent tout à l'heure.
Je sais pas.
Antoine, tu me dis quand je t'embête, hein, franchement. Hein. On fait entre nous comme ça, simplement. Est-ce que ça te paraît aujourd'hui un objectif important en termes d'investissement? On parle de la recherche, hein. On dit qu'il faut mettre dans la recherche. Est-ce que la recherche, par exemple, sur cette conquête spatiale, te paraît un enjeu capital important?
Bah, ils mettent peut-être un peu beaucoup de budget dedans, mais c'est une recherche qui vaut peut-être la peine.
On ne sait jamais ce qu'il y a ailleurs, on ne sait jamais. Évidemment, on ne peut que rechercher que des choses qu'on ne connaît pas. Mm. Sinon, c'est plus la peine de rechercher. Hein, donc, c'est le principe même de la recherche. Merci Antoine donc, pour cette approche d'information donc, concernant la conquête spatiale. Alors, comme disait Laurine tout à l'heure, moi, je vais vous ramener un petit peu sur Terre. Oui, Laurine, c'est vrai. Tu vas nous ramener durement sur Terre.
Oui, en effet, mercredi 2 novembre, un bébé est mort-né à Paris, alors que ses parents étaient sans domicile fixe et vivaient donc dans une tente dans le 14e arrondissement. C'est donc le mari de la femme enceinte qui a procédé à l'accouchement. Les pompiers et SAMU sont arrivés, mais il était trop tard pour l'enfant. Une enquête a toujours lieu pour déterminer la cause de la mort.
Bon, pourquoi cette info la mettre en avant ?
J'ai trouvé important de la mettre en avant parce que c'est assez rare des enfants qui naissent comme ça.
En France, en tout cas.
Oui.
Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est normal, logique, scandaleux ? Enfin, comment tu vois ça, toi ?
Bah, moi, je trouve ça triste, que ce soit pour le bébé ou les parents. Après...
On nous dit que la femme en question, plusieurs fois, d'autres SDF, lui avait dit qu'il fallait aller vers un hôpital et qu'elle avait refusé, semble-t-il. Elle aurait refusé. Est-ce que tu peux comprendre ça?
Non, parce que à partir du moment où on a besoin d'aide, enfin, elle aurait pu y aller, son bébé serait sûrement pas mort. Après, ça dépend, on peut pas savoir, mais...
Enfin, bon, qu'est-ce qui paraît énorme là-dedans, c'est quoi? Le fait que ça se passe en plein cœur de Paris Parce que franchement, des événements comme ça, ils s'en passent partout dans le monde, hein, dans les pays très pauvres. Et c'est vrai que sur 7 milliards d'humains, on s'intéresse évidemment à ceux qui sont plus proches de nous. C'est le fait que ce soit parisien qui fait que tu penses que c'est important qu'on en parle?
Le fait que ce soit en France et plus particulièrement des SDF.
Est-ce que tu crois qu'il faudrait, parce que c'est un débat qu'il y a tous les ans avec les SDF, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il faut qu'il y ait une autorité qui dise « vous ne pouvez pas rester comme ça à l'extérieur, même si c'est par la force, on va vous protéger, vous mettre dans des endroits où vous serez dans des murs en dur ?» voilà, alors qu'on sait que plein de SDF le refusent.
Après, ils ont l'habitude de vivre comme ça. Donc, une fois qu'il y a les repères, c'est difficile, délicat de partir. Et on n'accepte pas toujours d'être aidé.
Enfin, en tout cas, c'est un problème qu'on évoque maintenant. On est au début de la saison froide. C'est clair qu'on va réentendre encore, malheureusement, cet hiver... plein de cas de ce type, hein, de choses absolument affolantes qui se passent dans la rue, parce que notre pays n'est pas capable d'abriter tout le monde. Alors, on va venir sur un autre sujet avec Justine. Alors, a priori, c'est tous les gens qui sont plutôt branchés dans les nouvelles technologies, hein, qui vont être très attentifs à cette actu. On va parler de Julian Assange.
Alors avant-hier, la Haute Cour de Londres a confirmé l'extradition vers la Suède de Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks.
C'est quoi Wikileaks? Tu
Donc,
peux nous rappeler?
Wikileaks, c'est un site internet qui dévoile de nombreux documents diplomatiques, top secret comme on dirait. Et à ce jour, il y a plus de 250 000 documents américains qui ont été postés sur ce site. Donc Julian Assange sera interrogé dans le cadre d'une enquête de viol et d'agression sexuelle. Deux jeunes femmes travaillant pour Wikileaks l'accusent d'abus sexuels. La première lui reproche le non-port d'un préservatif lors du rapport. Oui. alors que la seconde parle vraiment de viol. Et les autorités suédoises souhaitent donc interroger Assange sur ces accusations. Lui, il nie tout en bloc et il dénonce une machination politique qui viserait à stopper les activités de Wikileaks. Et je trouve que, vu le contenu du site, ça pourrait être très probable qu'il y ait des machinations là-dessous. En fait.
Ceci dit, on avait dit la même chose concernant DSK.
Oui.
On avait dit, juste à ce moment-là, avant le dépôt de candidature, si ça se trouve, c'est monté de toutes pièces, cette histoire de l'hôtel à l'hôtel Sofitel. Tu crois que là, par contre, c'est tout à fait probable ? Parce que évidemment, dans l'autre cas, ça, je pense que on est sur une idée où tout est tout à fait probable hein, du côté de DSK. Mais pour Julian Assange, ça ne paraît pas si évident.
Julian Assange, il aurait très bien pu commettre ces crimes-là. Je dis pas qu'il est non plus complètement blanc, mais je pense que ce serait possible qu'on sorte ces affaires-là pile au moment où il commence à avoir des activités sur son site. Enfin,
Alors, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup des questions duales. Je rappelle que c'était notre sujet de débat la dernière fois et on en parle de plus en plus. C'est peut-être le bon effet, finalement, de l'effet DSK. C'est qu'aujourd'hui, la notion de crime que représente le viol, on en parle vraiment de façon très, très, très à l'aise, on va dire, dans tous les médias. Ce qui est évidemment une très bonne chose. Derrière Julian Assange, il y a quand même une autre question qui se pose. Est-ce qu'à ton avis, c'est normal que quelqu'un, sous prétexte qu'il dispose d'outils informatiques, divulgue comme ça des éléments en principe top secret ?
Oui, c'est la fameuse question de est-ce qu'on doit tout savoir ?
Alors c'est justement la question que je te pose.
Justement, comme elle porte à débat, j'ai pas trop de réponses à y donner parce que certes, l'idée qu'on puisse nous mentir, c'est quand même une atteinte à nous. Enfin, on a le droit de savoir la vérité, mais il y a certaines choses qui ont peut-être une ampleur très importante et qui doivent être tues.
Quelle est la limite ? Qu'est-ce qui, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait protéger en priorité par l'interdiction totale de divulgation de documents ? Enfin,
La vie privée des politiques, par exemple, des personnes célèbres aussi. Enfin, moi, je vois pas pourquoi c'est dans les médias. Ça nous concerne pas. C'est juste on nous expose des faits. On n'a pas besoin de le savoir. Ça va rien nous apporter de plus.
Et puis au-delà, il y a tout ce qui évidemment peut porter tort à la sécurité nationale, internationale, aux grands équilibres et à la paix, quoi. Hein, au-delà des questions d'honneur telles que tu les présentais. En tout cas, bon, à suivre. Voilà. Donc là, on ne sait pas hein, si on est dans le fait divers ou si on est dans le vrai débat de société sur qui a le droit de dire quoi. Hein, à travers ce sujet que vient de nous présenter Justine. Stéphanie,
oui.
les Belges n'ont pas de gouvernement, mais en tout cas, ils ont des idées et ils ont emboîté le pas d'autres pays. De quoi s'agit-il ?
Tout à fait. Alors, la Belgique va fermer ses centrales nucléaires. En effet, suite à l'accident de Fukushima, donc au Japon, l'Allemagne et la Suisse ont décidé de fermer leurs centrales nucléaires. C'est donc maintenant au tour de la Belgique qui prévoit d'ici 2015 la fermeture de 3 réacteurs sur les 7 que compte le pays, puis l'arrêt total du nucléaire en 2025. Toutefois, ce plan nécessite de trouver des sources d'énergie qui seront capables de remplacer ces centrales nucléaires qui fournissent plus de la moitié de l'électricité du pays, donc plus précisément 55%. Mais il semblerait que l'éolien soit la principale solution pour remplacer le nucléaire.
Alors le nucléaire, c'est quoi ? C'est un problème économique ? C'est un problème de développement durable ? C'est un problème de sécurité des personnes ? Qu'est-ce qui te préoccupe, toi, sur cet aspect du nucléaire ?
C'est un peu tous les trois réunis, parce que comme on a vu à Fukushima, avec tout ce qui s'est passé, ça a eu quand même ça a engendré des gros problèmes, surtout économiques, puisqu'il y a certains produits qui ne peuvent plus vendre à d'autres pays, comme le lait, parce qu'il est contaminé. Donc c'est aussi un problème donc économique, de santé aussi pour les autres personnes. Et voilà.
Eva Joly, candidate écologiste, était il y a quelques temps à Fukushima, justement, et quand elle est revenue, elle a dit à François Hollande, puisque a priori les accords devraient être passés entre ces deux formations de gauche, elle dit « ce serait bien que vous alliez faire un tour là-bas pour voir exactement ce qu'il en est ». Est-ce que tu as l'impression que, justement, il faut voir les malheurs, les réalités, pour mieux comprendre les choses ?
Bah oui, je pense, parce que tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas savoir vraiment ce que ça fait. Enfin, on ne peut pas se rendre compte comme ça, s'imaginer. Et, alors qu'une fois que voilà, on a les choses sous les yeux telles qu'elles sont, après, on peut mieux comprendre et essayer d'agir.
Tu veux dire par là que la connaissance théorique d'une chose est importante, mais le ressenti qu'on a, c'est aussi important dans la conviction qu'on peut
moi,
se faire.
Moi, c'est ce que je pense, après, je sais pas.
Mais oui, mais tu as tout à fait le droit de le penser. Alors donc, la Belgique après l'Allemagne, et puis la France, le débat existe, bien évidemment. Tu irais habiter à côté d'une centrale nucléaire ?
Non. Non, je sais pas, c'est peut-être dangereux, je sais pas trop en fait. Enfin, j'aurais le choix entre vivre à côté d'une centrale nucléaire et aller, je sais pas, dans la campagne. Je préférerais aller à la campagne.
En général, les centrales nucléaires sont à la campagne, hein. Je le dis quand même.
Oui, non, mais loin d'une centrale.
Voilà, plus en sécurité. Hein, ceci dit, c'est vrai que quand on parle des éoliennes, tiens, l'autre jour, j'étais arrêté sur une aire de stationnement sur une grande route nationale, et pendant toute la nuit, je dormais donc sur le parking, pendant toute la nuit, j'entendais un bruit bizarre. Et le matin, quand je me suis levé, je suis allé voir ce qu'il y avait autour, et on avait quatre grandes éoliennes, et contrairement à ce qu'on dit, oui, ça fait effectivement un petit bruit de fond gênant pour les gens qui sont vraiment juste à côté.
Après,
ceci dit, c'est pas le même problème que les radiations nucléaires, évidemment. Hein. Donc les éoliennes, toi, ça t'intéresserait d'avoir une éolienne à côté de chez toi ?
Après, c'est vrai que ça peut avoir des nuisances sonores. Ça peut aussi, je crois que ça, enfin au niveau de la réception de certains trucs, genre la télé ou je sais pas quoi, ça perturbe un peu tout ça. Mais oui, je sais pas. D'un côté, c'est quand même plus sain que le nucléaire, mais d'un autre, enfin ça a toujours des inconvénients. Hein. Quoi qu'on fasse, ça aura toujours d'autres inconvénients. Donc
la politique du moindre inconvénient. Voilà. Donc l'enjeu de toute façon du nucléaire, ce sera évidemment un des enjeux de la future campagne, et puis c'est évidemment un enjeu important sur l'avenir. Audrey, tu veux nous faire sourire un peu dans ce monde si morose ?
Oui. Hier matin, à Cannes, lors du G20 visant à discuter des problèmes de la Grèce, Barack Obama a félicité le couple Sarkozy de l'arrivée de la petite Julia. Il a taquiné le président sur son physique devant la terre entière. Je cite ce qu'il a dit.
Oh oui, cite.
Je suis sûre que Julia a hérité du physique de sa mère plutôt que de celui de son père, ce qui est une très bonne chose.
Est-ce que tu... C'est pas sympa quand même. Est-ce que tu as vu la scène à la télévision?
Oui, je l'ai vu.
Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Nicolas Sarkozy, comment il a réagi quand on lui a dit ça?
Il a rigolé.
Il n'avait pas le choix. Hein.
Non.
Mais à ton avis, est-ce qu'il a apprécié finalement ce type d'humour?
Non, je ne pense pas.
Ouais, il a peut-être fait un peu lourd là quand même. Hein. Ouais. Il a un peu cassé la baraque, Obama. Dis-moi, tu nous parles de ce petit événement là, qui fait sourire, hein, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'ils étaient quand même réunis à Cannes pour un G20. Et je m'aperçois que, alors qu'il y a encore un sujet important qui va venir tout à l'heure dans les sujets que vous avez retenus, que personne n'a retenu le débat sur la Grèce, sur le problème de la dette. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, alors que tout le monde en parle, que c'est, il y a des enjeux énormes derrière, pourquoi vous avez choisi plutôt l'astéroïde ou Julian Assange ou les centrales nucléaires en Belgique? Pourquoi, Lise?
À la base, c'est ce que je comptais prendre. Et puis, j'ai trouvé ça compliqué et puis très, très, très changeant. Il y a tous les jours, il y a des nouvelles actualités dessus.
Les radios, en général, suivent l'actualité. Hein,
bien sûr.
Pas au jour le jour, heure par heure.
Mais je trouvais que c'était un peu... pas assez précis pour moi. Enfin, c'était pas assez. J'avais peur de dire des choses.
Trop compliqué à développer.
Déjà, oui. C'était déjà trop compliqué. Économiquement, on n'a peut-être pas forcément le niveau pour tout comprendre.
Et les autres Est-ce que pourquoi vous n'auriez pas vous traité ce sujet? Est-ce que quelqu'un veut nous donner un point de vue sur la question? Non?
Non, moi c'est pareil que Lise.
Par prudence.
Ouais.
Par prudence. Est-ce que vous comprenez bien quand même en gros de quoi il s'agit des enjeux?
Bah, la sortie de l'euro d'un pays déjà.
Ouais.
Et ça a été mentionné en tout cas. Et la ruine aussi d'un pays et de plusieurs pays, ça pourrait gagner le reste de l'Europe.
Ouais. Pierre, tu voulais en parler aussi, non? Ah mais si, Pierre voulait en parler, tiens. Tiens, on va passer le micro à Pierre. Attends, un petit bruit et voilà, le micro va jusqu'à Pierre. Oui, Pierre, toi qui n'étais pas prévu, bien sûr, peux-tu nous parler de cette question-là?
Bah, je pense surtout que les puissants, entre guillemets, font en sorte qu'on ne comprenne pas très bien le débat pour justement pouvoir régler ça entre eux et que les gens s'en mêlent pas trop.
Tu penses qu'on complique les choses? C'est vrai que ça vient de quoi? Des chiffres?
C'est la politique.
Ouais, tu parles de l'argumentation politique, la façon dont c'est présenté.
Ouais, ouais.
C'est pas une histoire de chiffres tellement énormes que les gens ils se rendent pas compte de ce que ça représente.
Bah non, enfin je pense que si les gens aujourd'hui ont quand même une assez bonne conscience de la valeur de l'euro, mais c'est pas, mon avis, c'est pas le...
Bon, c'est un sujet compliqué dans tous les cas, hein, effectivement. Enfin, en tout cas, on sait que derrière ça, il y a des gros enjeux. Toi, tu as choisi, Pierre, de nous parler, ben, évidemment, du gros sujet de la semaine en France. Charlie Hebdo, qui s'était rebaptisé, ça lui a coûté cher.
Voilà. Donc, en 2006, déjà, Charlie Hebdo avait été attaqué par des musulmans indignés par la publication sur l'hebdomadaire satirique de caricatures de Mahomet. Suite à une alerte à la bombe, la rédaction du journal avait été protégée par la police et le directeur, Philippe Val, protégé de près 24 heures sur 24. Mercredi, alors que l'hebdomadaire allait publier un exemplaire réintitulé « Charia Hebdo », où le rôle du rédacteur en chef aurait été tenu par Mahomet lui-même, les locaux ont été incendiés. Le but de cette édition était de critiquer la victoire du parti islamiste en Tunisie. Dans un même temps, le site du journal avait été piraté et sa page Facebook submergée de messages, de menaces, pardon. Charb, le directeur de la publication, estime que ces éléments ne sont pourtant pas liés. En effet, l'incendie ne serait qu'un banal acte de vandalisme fomenté selon lui par deux cons du quartier. Charlie Hebdo est actuellement hébergé au sein des locaux de Libération dans le 3e arrondissement. Charb espère avoir recouvré de nouveaux locaux d'ici la semaine prochaine.
Tu as acheté le dernier Charlie Hebdo?
Ouais.
Qu'est-ce que tu as lu? Tu as rien? Tu as
j'ai oui, j'ai lu principalement les articles qui concernaient la victoire du parti islamiste en Tunisie.
Mm-hmm. Et donc pourquoi tu penses que cette info elle est importante et doit être mise en valeur?
Ça remet en question des débats importants du style la liberté de la presse. Et puis surtout le côté révolutionnaire des Tunisiens qui est complètement remis en cause par ce non-respect de la liberté de la presse.
Ce qui est intéressant, c'est que tu lis deux infos en même temps, quoi. Tu lis deux infos importantes, ce qui se passe en Tunisie et puis ce qui se passe ici au niveau de la liberté de la presse. Hein. Par rapport à la liberté de la presse, tout le monde, hein, Claude Guéant, ministre sur place, a clairement condamné cet attentat puisqu'il a utilisé le mot. Est-ce que la liberté de la presse vous paraît être quelque chose de fondamental dans une société? Lise, oui.
Oui, évidemment, ça fait partie de la liberté totale d'un peuple. Et je trouve que si jamais on commence à enrayer la liberté de la presse, on laisse plus aux citoyens la possibilité d'avoir des informations importantes, et je trouve ça très inquiétant. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de se moquer des religions, puisque c'est ça en fait le sujet? Oui, Laurine.
Moi, je pense pas qu'on ait le droit de se moquer des religions, parce qu'après tout, chacun sa religion, chacun est libre de... d'avoir sa propre religion, et je pars du principe qu'on respecte les autres religions.
Voilà, il faut respecter ce que les gens pensent profondément. Voilà, non mais c'est clair que le sujet n'est pas simple. Pierre, toi tu es d'un avis un peu divergent.
Je pense que justement c'est ça tout le débat, c'est que On ne cherche pas à pratiquer une religion sans que les autres nous embêtent, quoi, qu'on le fasse tout seul. Mais justement, c'est ce qui se passe en Tunisie, c'est qu'on essaie de l'imposer à tout un pays. Et je trouve que c'est ça qui est inacceptable.
Et le fait que ce soit le plus souvent orienté vers la religion musulmane, est-ce que
non,
c'est un problème ou pas ?
Non, je pense que peu importe la religion, même il y a certains catholiques qui sont intégristes.
Oui, justement, c'était à ça que je pensais. Oui.
Voilà.
Oui,
et, non, je trouve que peu importe la religion...
Donc d'un côté liberté d'expression, d'un autre côté, nous disait Laurine, respect aussi de la façon de penser ou de se réfugier dans le spirituel, donc de chacun, et en tout cas la liberté de la presse, quelque chose de fondamental, liberté aussi de faire de la radio, ce qui est donc la nôtre aussi ici, ce qui est celle de Justine, Lise, Antoine, Stéphanie, Laurine, Audrey, Pierre, qui étaient avec nous ici en direct dans le studio de Fréquence Cillé sur le 97.9 sur le pays de Haute-Sarthe pour vous présenter leur hebdo du vendredi. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.